Chers amis des cellules, bonjour. L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « La justice de Joseph ». Dimanche prochain, en effet, nous allons entendre l'Annonciation à Joseph, un texte qui est assez subtil. Avant de le lire, je vous invite à être attentif à la façon dont Joseph est qualifié dans ce texte. Comment est-ce que l'on précise son identité? Commençons la lecture. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Ayant lu le texte, je vous repose la question, quelles sont les précisions qui nous sont données au sujet de Joseph? Elles sont au nombre de 3. Vous avez un instant pour ressaisir cela. Je présume que vous avez eu le temps de ressaisir, et donc vous avez pu remarquer que Joseph était appelé l'époux de Marie, on nous dit que c'était un homme juste, et il est qualifié aussi de fils de David. Cette précision nous amène à comprendre que la justice de Joseph devra s'exercer d'une part vis-à-vis de Marie son épouse, et d'autre part comme fils de David par rapport à l'histoire de l'Alliance, par rapport à l'histoire sainte, par rapport au plan de Dieu dans l'histoire sainte. Avant d'aller plus loin, nous avons besoin encore de 2 précisions. Une précision sur le mariage juif à l'époque de Jésus, et une précision sur la façon dont on traitait l'adultère. À l'époque de Jésus, lorsque le mariage juif était scellé entre un homme et une femme, il y avait une première période que l'on appelait fiançailles, mais qui était déjà à l'intérieur du mariage, où les deux époux ne vivaient pas encore ensemble. Ils faisaient encore maison séparée jusqu'à une célébration où l'époux allait conduire son épouse chez lui. Et c'est donc dans cet état que sont Joseph et Marie, ils sont mariés, mais sont encore dans cette époque dite des fiançailles, où ils font maison séparée, où ils font chambre séparée. Et c'est donc au cœur de cette période que Marie se trouve enceinte. Au vu du mariage juif, si l'un des époux dans cette période de fiançailles avait des relations sexuelles avec un autre, il serait adultère. Deuxième précision, donc, la façon dont l'adultère était traité. L'adultère devait être puni de lapidation. Cependant, on prenait en compte le fait que la jeune fille aurait pu être violentée et que peut-être qu'elle se trouvait dans une situation où elle appelait à l'aide, mais personne ne l'a entendue. Et donc il y avait ce cas où on vérifiait est-ce que la jeune fille a appelé à l'aide, ou bien est-ce qu'elle se trouvait peut-être dans les champs, et donc elle a pu appeler à l'aide, mais personne ne l'a entendue. Dans ce cas, on ne faisait pas, on n'appliquait pas la sentence de la lapidation. Cela étant dit, je vous invite à vous poser la question suivante. Comment Joseph sait-il que Marie est enceinte? Comment Joseph sait-il que Marie est enceinte? Je vous laisse discuter là-dessus pendant 2 minutes. Je présume que vous avez eu le temps d'échanger, je reprends le commentaire. La première hypothèse, c'est que Joseph s'en rend compte tout seul, à cause des formes de Marie qui changent son ventre s'arrondissant. Cette hypothèse est problématique parce qu'on se demande alors pourquoi est-ce que Marie aurait caché cela à Joseph? Pourquoi est-ce qu'elle aurait voulu tromper Joseph? Pourquoi est-ce qu'elle aurait voulu ne pas lui faire confiance? Aurait-elle eu peur que Joseph commette une injustice à son égard? Mais justement, on a qualifié Joseph d'homme juste. Donc l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est Marie elle-même qui a prévenu Joseph qu'elle était enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Reconnaissons que ce n'est pas une nouvelle facile à digérer. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire du salut. Cela transforme vraisemblablement les plans qu'il avait projetés avec Marie. Mais alors, comment interpréter maintenant sa décision de renvoyer Marie en secret, de la répudier secrètement? Répudier secrètement signifie qu'il va accueillir Marie chez elle et qu'il va aussi, vis-à-vis de tous, reconnaître Jésus comme son enfant. En effet, s'il se sépare matériellement de Marie, il la fait passer pour une femme adultère. Mais si matériellement rien ne change, en quoi est-ce juste, alors, de la répudier en secret? Qu'est-ce que cela change? Quel est le souci de justice qui peut animer Joseph en faisant cela? Si Joseph est juste envers Marie, alors il croit que ce qu'elle lui a dit est effectivement vrai, qu'elle est effectivement enceinte de l'Esprit-Saint. Elle ne l'a pas trompée. S'il y avait eu adultère, il aurait été juste qu'il la dénonçât publiquement, mais il n'y en a pas eu. Joseph décide de la renvoyer en secret parce qu'il ne veut pas se poser comme un rival de Dieu. Il est prêt à assumer devant les hommes le rôle d'époux de Marie et de père de Jésus parce que cela est nécessaire à leur vie, mais il ne veut pas se prétendre tel devant Dieu, puisque l'enfant ne vient pas de lui. Nous voyons là l'extraordinaire docilité de Joseph face à l'histoire du salut. Il comprend que pour donner à cet enfant que Dieu suscite le titre de fils de David, il doit en apparaître le père. Et pourtant, il n'a pas la prétention de se dire devant Dieu comme l'époux de Marie, puisque Dieu, entre guillemets, a réclamé Marie pour lui en vue de l'accomplissement des promesses de l'histoire du salut. Il s'apprête donc à tenir et à remplir ce rôle devant les hommes pleinement et en même temps, devant Dieu, à ne pas usurper un droit qu'il estime ne plus être le sien, celui d'être l'époux de Marie. Nous comprenons alors que l'attitude de Joseph est dictée non pas par un soupçon vis-à-vis de Marie, même s'il a pu être tenté un moment en entendant Marie lui parler, mais son attitude n'est pas guidée par un soupçon envers Marie, mais par un respect de Dieu à l'œuvre dans l'histoire du salut. L'intervention de l'ange prend alors un aspect tout à fait différent. L'ange vient confirmer Joseph dans sa mission, dans son rôle et dans son état d'époux de Marie. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Marie est confirmée par l'ange du Seigneur comme épouse de Joseph. Le texte grec de l'Évangile permet une autre traduction qui colle plus précisément au commentaire qui vous est donné ici. Ce que nous entendrons dimanche est « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Cette traduction semble rassurer Joseph sur le fait que Marie ne l'a pas trompé. Une autre façon de traduire donnerait ceci « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Certes, l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, mais elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Dans cette deuxième traduction, l'ange assure de fait que l'enfant vient de l'Esprit-Saint, mais il manifeste que cela ne doit pas dissuader Joseph de prendre Marie comme son épouse. Plus encore, il assumera vis-à-vis de l'enfant la responsabilité de père. Tu lui donneras le nom de Jésus, mais elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Avec cette deuxième traduction, le rôle de l'ange permet à Joseph de ne pas se laisser dissuader d'être époux de Marie et père de Jésus, du fait que l'enfant soit conçu par l'Esprit Saint, du fait que l'enfant vienne de Dieu. Cette interprétation fait pleinement partie de la tradition catholique. Elle a été soutenue d'abord par Origène, puis ensuite par Eusèbe de Césarée, et encore remise au goût du jour par un exégète contemporain, Xavier Léon Dufour. Cette ligne de traduction permet de tenir la justice de Joseph et vis-à-vis de Marie et vis-à-vis du Seigneur, de l'alliance et de la loi qu'il avait donnée. En effet, si Joseph avait douté de Marie, il aurait été injuste envers elle, et s'il pensait qu'elle avait été infidèle, la répudier secrètement aurait été injuste envers la loi. Au terme de ce commentaire, je vous invite à contempler et peut-être à réagir sur cette faculté de Joseph à accepter que sa vie fasse partie de l'histoire du salut, à accepter que sa vie soit bouleversée par l'histoire du salut. Il avait imaginé certainement être époux de Marie et père des enfants de Marie, et voilà que l'intervention de l'histoire sainte, de l'Esprit Saint, vient transformer ses plans. Et en même temps, sa docilité à l'histoire du salut lui permet d'accomplir ses plans, même si c'est un peu différemment. Il est effectivement l'époux de Marie, et il est aussi le père de Jésus. Nous retrouverons cette cohérence plus tard avec les disciples, lorsque, pour parler de Pierre et d'André son frère, de Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs, Jésus leur dira « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il y a une différence par rapport à ce qui était prévu entre pêcheurs et pêcheurs d'hommes, et en même temps une continuité. Jésus gardait ce terme de pêcheur pour manifester cette continuité entre leurs projets initiaux et ce qu'ils réaliseront plus tard. Cela nous invite à nous interroger. Suis-je prêt à admettre que ma vie prenne place dans l'histoire du salut, que j'ai apporté une part de la rédemption, que j'ai à rendre témoignage à la justice et à la vérité? Et est-ce que j'ai aussi cette espérance que ma vie bouleversée par l'histoire du salut trouvera pourtant une cohérence avec mes projets initiaux? Je vous souhaite de bons échanges. À bientôt.